La première heure d'émission, on a envie de la dédier à tous ces jeunes au Québec qui ont un problème de jeux vidéo, un problème de cyberdépendance. C'est un mot nouveau. C'est un mot qu'on commence déjà à essayer d'éviter d'utiliser. Mes invités vont nous dire pourquoi, d'ailleurs. Mais c'est sûr que vous avez entendu parler de ce documentaire avec Alexandre Taillefer. Alexandre était ici il y a 2 semaines pour nous parler de cette tragédie qui a frappé sa famille, le suicide de son fils Thomas, qui il y a presque 2 ans, ce sera ce triste anniversaire demain, ça fera exactement 2 ans que son fils s'est enlevé la vie. Il n'a laissé qu'un mot, bye, à ses parents et plein de questions. Plein de questions et depuis 2 ans, Alexandre et sa famille essaye de répondre à ces questions-là. Une façon de le faire pour lui, ça a été de participer à un documentaire qui a été réalisé par mon invité Jean-Philippe Dion, que vous connaissez bien, animateur, mais surtout producteur exécutif.
En fait, qui a été produit, mais la réalisation, c'est Frédéric Nassif et Mathieu McKinnon qui ont travaillé très, très fort sur ce projet.
Merci d'être là, Jean-Philippe.
Ça fait grand plaisir.
Ce documentaire bail, donc, qui tente de circonscrire un peu ce problème-là, qui vient de nous arriver. On dirait qu'on sort des nues avec ça.
Oui, exactement. Il y a Télé-Québec qui avait fait un documentaire un peu plus tôt cet automne sur la dépendance et tout ça. Mais nous, on voulait vraiment être dans un mode d'une quête et on veut faire changer les choses. Puis on a, je pense, le meilleur ambassadeur, Alexandre, parce que oui, il a vécu une histoire horrible, une histoire vraiment très difficile qu'on souhaite absolument à personne, mais c'est un combattant, Alexandre. T'sais, on aurait pu intituler ce documentaire-là « Alexandre le conquérant »,« Alexandre le battant », parce que c'est ça qu'on voulait faire ressortir. C'est fascinant l'énergie qu'il met pour la cause. On s'entend qu'Alexandre aurait pu utiliser peut-être ses moyens financiers pour faire changer les choses, mais en participant à un documentaire, c'est non seulement c'est une prise de position de sa part, ensuite ça devient un sujet d'enjeu public, populaire. Tout le monde en parle en ce moment. Puis on espère qu'il y aura
des retombées.
Des retombées, mais on espère aussi que ça va changer vraiment dans cette société-là.
Bien, des retombées, je pense que c'est lié, hein? On ne cherchera pas trop, mais le ministre de la Santé vient d'injecter 35 millions de dollars par an pour les soins en santé mentale, une cause qui te touche beaucoup.
Vraiment. On annonce ça 2 jours avant la diffusion du documentaire.
D'après toi, c'est un petit peu...
Il n'y a pas de lien.
Tu dis qu'il y a un petit peu de nous autres là-dedans?
En fait, il y a beaucoup d'Alexandre là-dedans parce que c'est lui qui est allé rencontrer le ministre à Québec avec le documentaire sur sa tablette. Il est allé lui présenter pour essayer de le faire réagir. Et honnêtement, le ministre a réagi. Je pense que pendant ces minutes-là, c'est le père de famille qui regardait le documentaire.
Père de famille qui d'ailleurs, a eu quelques problèmes avec certains de ses enfants. Donc, on le voit d'ailleurs, c'est pas un mauvais book d'ailleurs. J'y pensais en regardant le documentaire hier. Le ministre de la Santé, c'est pas une mauvaise personne forcément, c'est quelqu'un qui est un peu aussi pris dans un contexte politique, mais bon, c'est comme une espèce de job plate. Là,
mais honnêtement, je pense qu'il est vraiment sensible à la cause de la santé mentale, parce qu'après ça, il a parlé avec Alexandre aussi, c'était pas un moment qu'on a filmé, mais ils ont parlé ensemble, puis il y a vraiment des objectifs, mais à un moment donné, il y a un budget à gérer. Hein. C'est pas lui qui décide du budget à mettre en santé au Québec, mais visiblement, il a voulu faire son petit bonhomme de chemin, puis donc en injectant, il y a 15 millions qui a été annoncé l'autre semaine, en fait, qui était pour les jeunes dans les écoles en psychologie. Puis là, on a ajouté 35 millions de dollars. Donc, ça fait quand même 50 millions d'argent frais en santé mentale, ce qui est quand même pas banal.
Alexandre Taillefer en demandait comme
10 fois plus.
Mais...
Non, mais c'est ça. Mais c'est bon de rêver grand. Puis c'est sûr qu'il faut miser sur le tout, sur l'espèce de but ultime. Mais allons-y un pas à la fois. Puis ça
vous lancez, en fait. Alexandre Taillefer a fait, tu dis, son espèce de quête.
Ouais.
Il est allé voir. Il aurait pu miser sur son argent, mais il a misé sur ses contacts parce qu'à la fin, d'après ce qu'on comprend, il est allé voir des gens en high-tech, en technologie de l'information, puis ils ont mis sur pied une plateforme qui s'appelle Youhoo.
En fait, ils ont remporté une bourse. Tout ça s'est fait dans les derniers jours avant. Nous, à un moment donné, Radio-Canada voulait avoir le documentaire. Et là, on disait, non, attendez, Alexandre veut faire d'autres petits tournages. On ajoutait des trucs parce qu'en fait, il y avait le Coopératon à Montréal, qui est un rassemblement de gens, justement, de la technologie. Et ils ont obtenu, avec ce projet-là, un montant d'argent. Je pense que c'est comme autour de 15 ou 16 000 $ là. C'est pas énorme. Mais donc, pour développer cette application-là, qui sera testée à partir de septembre au collège Collège du Rocher, qui est le collège où Thomas allait. Alors, à la fin du documentaire, vous allez voir ça ce soir. Mm-hmm. Les parents, donc Debbie et Alexandre, vont présenter cette application-là à l'école. Et c'est, je pense, moi, un des moments, je trouve, le plus difficile dans le documentaire, parce que Debbie, la maman, arrive à l'école et elle tenait à être là. Elle voulait pas être dans le documentaire parce que c'est trop difficile pour elle. Puis évidemment, on comprend pourquoi. Mais elle voulait être là à Du Rocher parce qu'elle voulait remercier les enseignants, les étudiants. Il y a un jeune garçon qui est un ami de Thomas qui est au premier rang. Puis on est content que cette application-là ben, soit testée là où
Thomas est. Qui s'appelle Youhoo, puis qui pourrait bien sûr être dans...
C'est ça le but. Le but, c'est que ce soit répandu à l'échelle
dans
du Québec.
Tous les téléphones de nos jeunes, s'ils en ont besoin. Je vais vous présenter deux autres invités qui vont se joindre à la discussion, mais avant, j'aimerais que vous écoutiez un extrait du documentaire Bye. Vous allez pouvoir le voir ce soir, 21h, sur les ondes de Radio-Canada Télé.
Exactement.
Bien sûr, voici un extrait.
Qui ici joue aux jeux vidéo plus que, disons, 20 heures semaine, levez la main. 20 heures semaine. 20 heures, c'est pas mal tout le monde, hein? Qui va jouer plus que 5 heures par jour en moyenne? 35 heures semaine? Ouais, ça fait du monde.
Ça va faire maintenant à peu près 5 ans que je dois mettre environ 35-40 heures semaine.
On peut dire que t'es bon?
Ben, j'ai encore des choses à apprendre, mais je m'améliore de plus en plus, là.
On dirait que les jeux sont faits maintenant pour que vous restiez le plus longtemps possible dedans, non?
Ouais. Tu peux pas faire pause, ça que... C'est un peu, tout le monde connaît ça, les parents qui arrivent, « Ah, fais pause », mais c'est les gens en ligne, donc c'est pas de même.
Tu peux pas faire pause. Et moi, je n'ai appris une bonne... Ça a l'air qu'on peut pas faire pause dans ces
jeux-là. On est loin de Mario Bros. Moi, je jouais à Mario Bros quand j'étais jeune, puis on avait des tableaux, ça s'arrêtait. Maintenant, c'est plus ça, les jeux vidéo.
Non, mais là, les jeunes te regardent, puis ils font comme, OK, t'es vraiment pas dedans.
Non,
là,
c'est
mais
ça.
Mon parent comprend rien, fait qu'imagine. S'il comprend pas mon jeu vidéo, comment il va me comprendre? Tu sais, c'est tout lié, tout ça.
Ah, oui.
Guylaine Sarrazin est avec nous, elle est travailleuse sociale au Centre de réadaptation en dépendance du CISSS, de la Montérégie-Ouest. Merci beaucoup d'être là, Guylaine. Ça fait 19 ans, en fait, que vous travaillez dans le domaine des dépendances. Puis là, depuis 10 ans, vous vous intéressez particulièrement à cette clientèle qui a développé une dépendance aux jeux vidéo, beaucoup de jeunes.
Mm-hmm.
C'est un vrai problème maintenant. On l'a entendu dans l'extrait, 35-40 heures par semaine, puis c'était pas mal de monde dans ce café où Alexandre...
Et c'est peu, ça, pour certains, là. Il y en a que c'est beaucoup plus.
C'est une job à temps plein, là.
Mm-hmm. Tout à fait. Mais c'est difficile de dire... Oui, c'est vrai que c'est un problème préoccupant. C'est en émergence. Nous, ça fait 10 ans qu'on on avait des parents qui nous appelaient des demandes d'aide parce qu'ils ne savaient plus quoi faire avec le fait que leurs jeunes jouaient énormément aux jeux vidéo. Donc, à partir de cette demande-là, on a mis en place un programme familial pour pouvoir s'intéresser à comprendre mieux le phénomène, voir les facteurs de risque, les facteurs de protection, puis d'être capable de faire en sorte que le jeu reprenne sa place en loisir et non pas prendre toute la place avec tous les impacts que ça peut avoir dans la vie d'un adolescent et sa famille.
Et donc, vous voyez beaucoup de cyberdépendants, là, des jeunes là, qui sont vraiment tellement accros qu'il n'y a plus d'autres choses qui les intéressent dans la vie.
C'est sûr que nous, comme on est un service spécialisé en dépendance, c'est dans le fond notre clientèle voit. C'est sûr que c'est difficile de parler en termes de nombre parce qu'on n'a pas fait nécessairement de publicité. On y va avec la demande. Quand les gens frappent à notre porte, on essaie le plus possible de répondre rapidement, d'être le plus possible accessible. Puis, on travaille aussi en partenariat avec la santé mentale parce qu'on le sait très bien aussi que souvent, ce qu'on voit en termes de problématiques de jeux vidéo, il y a des problématiques au niveau de la santé mentale, au niveau relationnel, d'autres difficultés qui viennent happer, dans le fond, le problème de jeux vidéo.
Geneviève Lajeunesse est animatrice du podcast Chien de garde. Elle est directrice des opérations à Crypto Québec, un organisme sans but lucratif qui informe les gens sur le hacking, entre autres. Elle est vraiment très, très bonne sur tout ce qui est Internet. Merci Geneviève d'être là.
Bonjour Isabelle.
Tu comprends que les jeunes nagent dans le web, t'en connais plein, tu leur parles, tu vas souvent dans les écoles. Développer une cyberdépendance, est-ce que c'est rendu vraiment facile pour les jeunes aujourd'hui? On a l'impression que ça. Là.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'on prend souvent ça du côté du compartiment, il y a un jeu en ligne. Mais c'est pas que le jeu en ligne. Chaque plateforme auquel les jeunes vont se connecter, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, les annonceurs vont aller leur parler par ces plateformes-là et ils les connaissent très, très bien. Ils vont savoir que de telle heure à telle heure, le jeune était connecté sur sa plateforme de jeu, puis qu'ensuite, il va aller utiliser ses médias sociaux. Donc, quel genre de publicité est-ce que les jeunes vont voir sur leur plateforme? Et là, vous me direz, bien, au niveau de la publicité qui s'adresse aux jeunes, au Québec, on a un cadre législatif autour de ça, on ne peut pas s'adresser à eux. Oui, mais c'est dans le flou, là. Sur Facebook, on est dans le flou. Mm-hmm. On ne parle pas d'annonceurs québécois, là, on parle d'annonceurs de grandes multinationale du jeu. Donc, il y a toujours cette loupe qui les ramène à penser au jeu, à voir des promotions en lien avec leur jeu en ligne préféré, à être au courant des événements qui se passent là. S'ils vont sur une plateforme de vidéo, exemple sur YouTube, ils vont être, les recommandations qu'ils vont avoir, ça va être des vidéos de leur jeu préféré. Ils sont toujours dans cet environnement-là. C'est pas de dire, bon, j'ai ma passion pour tel sport, puis ensuite j'ai d'autres activités dans ma vie. C'est que là, c'est comme si votre passion pour le sport, si vous allez au magasin, vous ne voyez que des verres à l'effigie de ce sport. Si vous allez acheter des vêtements, c'est la même chose. Si vous allez à l'épicerie, vous voyez que les aliments qui ont, c'est la même chose. Là. Tous les intrants dans leur diète numérique vont avoir rapport au jeu, parce qu'ils y répondent bien. Et plus ils y répondent bien, mais plus les plateformes vont leur parler de cette façon-là.
Ce qui est fascinant, en fait, c'est que oui, les compagnies sont capables d'avoir de la publicité qui est très sensible à l'utilisation du jeune, mais par exemple sur une plateforme comme Twitch où Thomas Taillefer, par exemple, est allé envoyer des messages qui étaient très clairs, où le jeune Simon Dufour a aussi envoyé des messages, celui qui s'est enlevé la vie il y a un peu plus d'une semaine. Mm-hmm. Et là, personne détecte ça. Ouais. C'est ça qui est paradoxal. Nous, on va magasiner sur Internet, on tape pantalon, jeans, telle marque, et là, on a des pubs, mais quand on envoie des signaux d'alarme parce qu'on a des problèmes en santé mentale, qu'on veut s'enlever la vie, là, il n'y a personne qui répond.
Mais
c'est un peu étonnant.
Justement, dans le documentaire, vous le montrez, à un moment donné, on voit Thomas, on lit ce qu'il a envoyé comme mot extrêmement touchant à ce qu'il pense être une personne, mais peut-être que c'est même pas une personne.
C'est une personne.
C'est une vraie personne.
Oui, cette personne-là a une identité. Nous, on a essayé de le contacter, on a tout fait pour essayer de le retracer, mais évidemment, il répond pas à ses courriels.
Mais est-ce qu'il existe? Moi, je me demandais, peut-être qu'il existe pas. C'est peut-être un avatar du tu sais.
Oui, parce qu'il y a un nom rattaché, c'est en fait Soda Poppins, qui est un des personnages. Mais il y en a plusieurs à qui Thomas communiquait, mais on a vraiment retracé ces gens-là et ce sont de vrais individus. Mais en même temps, c'est ceux qui n'ont aucun intérêt à faire signe de vie en ce moment. Là, c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas envie d'être mêlés à cette situation-là. Puis même chose chez Amazon, qui est propriétaire de Twitch, la plateforme de jeux vidéo. Tu sais, moi, je me disais, nous, quand on est allé présenter le projet, on a dit à Radio-Canada, nous, on va débarquer chez Amazon avec Alexandre. On va organiser une rencontre pour essayer de faire changer les choses. Parce que c'est ça qu'Alexandre avait dit à tout le monde en parle au départ. On essayait de toutes les façons. Puis à un moment donné, on s'est dit, peut-être que nous, en tant que producteurs, on n'a pas assez de pouvoir. Alors, on a demandé à Alexandre d'essayer d'appeler, de communiquer, d'envoyer des courriels.
Et de vous aller, là, carrément, là, tu sais, comme...
On n'est pas allé parce qu'à un moment donné, je me disais,
commando,
la sécurité...
Là, commando, tu vas... C'est où, c'est le social d'Amazon?
Mais c'est en Californie, c'est ça.
Et vous allez, non?
On n'est pas allé parce qu'on s'est dit, là, à un moment donné, la sécurité... Parce qu'on a parlé avec les gens au téléphone, il y avait des interactions, mais on s'est dit, la sécurité va débarquer après nous, puis ils vont nous chasser de l'édifice. Puis on s'est dit, perdons pas de temps avec ça.
Ça aurait fait des belles images,
ouais, exactement. Mais peut-être qu'on n'aurait pas aidé, par contre.
Puis il y a peut-être... J'ai senti que Debbie, la mère de Thomas, a comme un peu demandé à Alexandre de ne pas aller là.
Non, d'atténuer un peu, effectivement, parce que la première lettre, au départ, c'est ça, quand moi j'ai abordé Alexandre, la lettre c'était une lettre d'avocat, là. C'était une lettre très, très dure à l'endroit d'Amazon et de Twitch. Finalement, il avait adouci un peu sa lettre, mais finalement, cette lettre-là...
Il l'a jamais envoyée.
Non, c'est ça, il l'a jamais envoyée.
Mais c'est quand même puissant de voir qu'un jeune, un jeune de 14 ans se sent assez tout seul pour pas en parler à ses parents qui pourtant sont là, sont encadrants, sont aimants. Tu sais, on a souvent tendance... J'ai regardé une émission hier sur les médias à Télé-Québec où il y en a qu'une. Fait que...
Oui, on la connaît un peu.
On la connaît. Et on débattait d'une jeune mannequin, puis là, c'était Marina Orsini qui était là, puis qui disait, où sont les parents? Puis je me suis dit, oui, c'est sûr, mais c'est parce qu'on débattait du fait que cette jeune de 13 ans était considérée désormais comme une grown-up, comme une adulte, une femme. Donc là, elle était dans elle était très adultisée dans ses photos et tout, et elle avait été nommée très sexy par les médias, par certains groupes sur Internet. Là, tu te dis, OK, c'est-tu la faute du parent, ça?
Je pense
pas. Si les autres, le regard des autres, là, tu peux dire aussi, c'est à toi de gérer. Moi, ma fille est mannequin, c'est sûr que ça me touche. Mm-hmm. Mais à un moment donné, tu peux dire, il y a des affaires qu'il faut... Mais c'est délicat, je trouve, tout ça. Ben,
je pense que d'avoir une culture de blâme, ça ne va pas aider. Il n'y a personne qui va apprendre le blâme.
Ça. Mais on a toute une réponse. Il y en a qui ont blâmé les parents. Hein?
Ben, ça, il y en aura toujours.
Effectivement, Alexandre, sur les réseaux sociaux, oui, c'est arrivé, on l'a lu.
Il y en aura toujours, mais quand notre enfant va bien, c'est drôle, est-ce qu'on dit que c'est à cause des parents? Quand notre enfant va moins bien, il faut regarder qu'est-ce qui se passe exactement. Les jeux, c'est stimulant, c'est hautement interactif, une récompense immédiate, valorisant, reconnaissant. Mais il faut regarder aussi que certains, c'est pas tous les jeunes qui jouent à des jeux qui vont nécessairement développer une problématique. Il va avoir des facteurs de risque, des vulnérabilités qu'on va parler au plan de la santé psychologique, qu'on parle des jeunes anxieux, qu'on parle de la dépression, phobie sociale.
Et l'intimidation, c'est encore très présent.
L'intimidation, on a ça aussi. Moi, c'est ça, je peux pas parler pour tous les jeunes du Québec. Je peux parler des jeunes que moi, j'ai rencontrés. Il y en a beaucoup dans les jeunes que j'ai rencontrés qui avaient vécu l'intimidation primaire. Il y a des jeunes aussi qui ont des difficultés au niveau relationnel, au niveau familial, au scolaire. Fait que c'est multifactoriel. Fait que c'est difficile de juste centrer sur un. Puis, tu sais, des fois, j'entends dire, c'est la faute aux jeux vidéo. Mais on peut regarder aussi des jeunes qui vont me dire, ben moi, je vais pas souper avec mes parents. Puis oui, c'est vrai que je joue beaucoup, mais c'est aussi parce que quand je vais souper avec eux, c'est difficile. On rit pas, c'est lourd. Tout le monde est sur un peu sa plateforme.
Il faut parler d'eux. On parle de leur discussion d'adultes.
Mais il faut surtout aller dans leur monde à eux avant de vouloir qu'ils viennent dans le nôtre. Puis ça a toujours été pour tous les adolescents. Il faut aller à leur rencontre avant. Puis le jeu vidéo, il faut s'en préoccuper. C'est pas banal. Bon, il y en a des jeunes qui ont pas cette problématique-là. C'est sûr que nous, comme on dit, moi, je rencontre les jeunes qui ont... moi, avec mon équipe, naturellement, je suis pas seule.
Oui, c'est ça.
Parce que nous, on rencontre... on est toujours deux intervenants. Pour les parents, puis pour le jeune. Pourquoi? Pour négocier un espace relationnel pour le jeune, puis une pour les parents. Il y a des enjeux, des fois, les parents qui concernent moins les ados. Des ados, des fois, qui ont le goût de se confier dans un espace, puis après ça, on met tout ensemble pour dire, maintenant, c'est quoi l'objectif, sur quoi on va travailler? Des fois, c'est la communication, des fois, c'est, je sais pas, qui je suis. Je ressens un vide intérieur, puis il y a bien souvent les jeux vidéo, vu que c'est ancré depuis jeune. Moi, j'ai l'impression, des fois, je dis bien des fois, là, que ça peut faire écran sur des problèmes qui étaient là, mais qu'on... Tu sais, des fois, ça peut être rassurant de savoir que notre jeune est dans sa chambre, joue à des jeux ou, bon, va pas nécessairement à l'extérieur. Ça peut être rassurant, mais des fois, ce que ça a comme impact...
C'est ce que les parents d'un jeune Loïc, on va faire jouer un extrait après la pause dans le documentaire, il y a un jeune Loïc qui a été réchappé de justesse. Il avait écrit une lettre, il se préparait à se suicider. Puis les parents disaient, ben on était contents, il était ici, mais il prenait pas de drogue, il buvait pas. Fait qu'il y a quelque chose, effectivement, vous avez raison, Guylaine, de dire, il y a quelque chose de rassurant là-dedans, mais s'il est que dans sa chambre, c'est là où peut-être faut allumer. Faut se tirer nos antennes puis dire, mais c'est difficile des fois de leur parler. L'adolescence, là, c'est quelque chose.
C'est difficile si on y va avec un jugement ou qu'on condamne sans avoir adressé au premier abord pourquoi tu joues à ce jeu-là, qu'est-ce que ça t'amène, qu'est-ce qui fait que tu changes de jeu. Des fois, ils vont me le dire, il y a pas un jeune qui me dit que c'était pas important d'être en contact physique, d'être avec d'autres. Mais il y en a qui sont réellement seuls. Ils sont isolés. Et ça, c'est des fois, on se demande, est-ce que c'est la cause, la conséquence, on ne sait pas trop. Mais c'est important de l'avoir en tête qu'ils ont besoin de parler, puis ils ont besoin aussi d'aller à leur rythme aussi. Puis les parents ont aussi besoin, puis on a besoin d'eux pour avoir leur éclairage aussi. Fait que c'est sûr que de mettre le blâme, je pense qu'on doit travailler maintenant en équipe. On doit aussi autant la prévention que la réadapte. Ensemble.
On va revenir. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Merci Jean-Philippe. Tu restes avec nous encore quelques minutes. Il y a quand même une émission de radio tout à l'heure.
Ce midi.
On revient tout de suite après la pause. Vous pouvez bien sûr nous appeler 514-790-9850. Sans frais, vous faites partout au Québec le 1-866-790-9850. On se pose la question, pourquoi nos jeunes sont à ce point accros aux jeux vidéo? Ça peut vous donner l'occasion de nous dire un peu ce que vous vivez avec votre ado. À tout de suite, tout le monde. On se demande ce matin pourquoi nos jeunes sont à ce point accro aux jeux vidéo. C'est multifactoriel, comme nous le disait si bien notre travailleuse sociale ce matin, Guylaine Sarrazin. Geneviève Lajeunesse de Crypto-Québec est avec nous. Jean-Philippe Dion également, qui est producteur de ce documentaire que vous pourrez voir ce soir à 21h sur les ondes de la télévision de Radio-Canada, qui s'intitule « Bye », qui est la quête d'Alexandre Taillefer pour essayer de trouver des réponses au suicide de son fils Thomas, 14 ans. Dans le documentaire, Jean-Philippe, on voit justement Loïc, un jeune qui rencontre Alexandre parce que c'est un jeune qui aurait pu être Thomas, qui à la
Exactement.
rigueur.
Exactement. Ben, en fait, heureusement, Loïc, lui, est entré dans un centre pour cyberdépendants. En fait, un centre qui traite des dépendances parce qu'évidemment, ils n'ont pas d'argent pour la cyberdépendance. Mais heureusement,
Centre Le Grand Chemin.
Ouais,
c'est ça, vous connaissez, Guylaine?
Oui, tout à fait. On est partenaire avec eux.
Et où il a suivi une thérapie de 2 mois. Voici un extrait et c'est Loïc qui parle.
Ça a frappé vraiment fort quand j'ai aperçu que j'avais réellement un problème. Genre, de fuir dans les jeux.
Quand tu dis que tu fuyais, là, c'est quoi que t'essayais de fuir?
C'était lié à la peur du jugement puis à la peur du rejet. Donc, j'avais de la misère à interagir avec du monde à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je m'en ai genre joué. Parce que je pouvais interagir socialement puis il y avait un mur qui me défendait contre ça. Je me sentais important. Qu'est-ce que je pouvais pas vraiment sentir dans la société comme au secondaire, vu que je me sentais pas bien avec moi-même.
C'est incroyable tout ce qu'il dit, Loïc, là-dedans.
Ouais,
là.
Non, vraiment. Puis, tu sais, moi, je me souviendrai toujours des parents qui sont venus visionner le documentaire là, récemment. Puis, tu sais, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas où aller. Puis, c'est des parents aimants qui prennent soin de leur enfant. C'est des gens qui sont en moyen, des gens éduqués, mais ils savent pas où aller.
Ils se relayaient. Ils racontent qu'ils se relayaient la journée. Il y en avait toujours un qui était à la
maison.
Parce
qu'il avait peur.
Parce qu'il avait peur que leur fils s'enlève la vie.
Et je pense que je pourrais le confirmer, Guylaine, mais je pense pas qu'on peut traiter non plus cette dépendance-là du jour au lendemain. Je pense pas que quand le jeune sort du centre, il est guéri. Je pense que c'est un combat de tous les instants après ça. Et
comment il va, là, maintenant, Loïc, as-tu dit?
On en prend jour après jour. Alexandre a passé du temps avec lui récemment également parce qu'il veut vraiment l'encadrer, il veut l'aider. On lui a trouvé un psychiatre aussi pour l'aider, Loïc. C'est sûr que c'est des hauts et des bas. On souhaite juste que ça aille pour le mieux pour lui. Puis on espère qu'il va être fier aussi de s'entendre dans le documentaire.
Ouais. C'est un beau jeune garçon.
Vraiment,
C'est tous des beaux jeunes. C'est arrache-cœur. Moi, j'ai trouvé ça arrache-cœur. Puis on a des jeunes à la maison. Fait que c'est sûr que on est tous concernés par ça. Puis c'est pas vrai que c'est juste des gars. Il y a des filles
aussi.
Non,
il y a des filles, ouais.
Et leur point commun, Geneviève, c'est qu'ils se font des avatars j'avais l'impression qu'il est survalu, tu sais, quand il dit « je me sentais important », alors qu'il se sent comme de la marde dans la vie, là. C'est un peu ça, finalement. Excusez, mais c'est ça.
Mais non.
Mais c'est que le jeu
la va peur nous mettre, du jugement, du rejet.
Le jeu va nous mettre dans une situation où il y a des tâches à accomplir qui sont claires, il y a des règles qui sont claires, il y a des règles que tous doivent suivre. Bon, c'est certain qu'on pourrait avoir un joueur qui est capable de passer outre la plateforme puis de développer une façon de hacker la plateforme, mais 99% des joueurs des situations de jeu qu'on va avoir, c'est selon des règles établies. C'est très prévisible, c'est très sécurisant. Et puis dans le jeu, les jeux d'aujourd'hui, puis ça je le dis parce qu'on en parlait tantôt, les parents s'imaginent qu'on peut faire pause, ce genre de choses-là, mais les plateformes en ligne sont faites pour garder les jeunes engagés le plus longtemps possible et pour donc donner des récompenses au fait d'être simplement d'être connecté. Un jeune qui va jouer 8 heures à un jeu va être même sans, entre guillemets, talent, même en étant très, très fort dans le jeu, va sûrement être plus fort qu'un jeune qui joue 5 heures.
Ouais.
Parce que les jeux sont bâtis de cette façon-là. Le temps passé est récompensé. Donc, c'est une façon... on arrive rapidement à des effets qui vont isoler la personne qui joue. Là.
Clairement.
C'est certain. Là.
Au point où le jeune, comme Thomas, dit à ce gars-là là, de Twitch... mon Dieu, quand je te parle, je me sens mieux. T'es la seule personne qui a jamais vu d'ailleurs avec qui je me sens aussi bien. Sinon, le reste de ma vie, je suis pas bien dans ma vie.
Mais puis il y a même plusieurs jeunes qui nous ont dit aussi que à un moment donné, quand ils partent à l'école, ils se sentent mal parce qu'ils ont l'impression d'abandonner d'autres joueurs parce que eux autres, ça continue. Les autres joueurs, là, soit qu'il y en a qui ils vont pas à l'école, d'autres qui travaillent, qui sont sur d'autres fuseaux horaires, peu importe. Donc ils se sentent mal. Donc ils ont une culpabilité d'aller à l'école parce que puis là c'est là que la spirale commence, puis c'est ça, ces jeunes-là arrêtent de manger.
Le lien avec le suicide, comment as-tu trouvé cette réponse-là en faisant ce documentaire-là, Jean-Philippe? Comment ça se fait, à un moment donné, dans ce fameux café où Alexandre va rencontrer des jeunes, il y en a 8 sur 20, je pense, qui lèvent
exactement
la main à la question qui a déjà pensé se suicider ou fait une tentative. 8 sur 20!
C'est énorme, mais moi, la question, puis peut-être que Guylaine, vous allez pouvoir répondre, mais j'arrive pas à comprendre si un jeune qui décide donc d'en finir, est-ce que c'est un jeune qui développe une problématique en santé mentale à cause de la cyberdépendance, ou il a une problématique en santé mentale et là, il se plonge dans la
situation. C'est la réponse. C'est toujours la poule et l'œuf.
Ce
qu'on peut dire, ce que je vois, en tout cas, dans notre réalité clinique à nous, souvent, le problème de santé mentale précède, souvent présent avant que le jeu devienne un problème. Le jeu, dans le fond, devient un peu l'exutoire, l'échappatoire, le refuge, la réponse à un besoin.
Donc, il faudrait détecter cette problématique-là avant, c'est ça?
Oui, c'est important d'encadrer, de détecter. La prévention, elle est vraiment importante, un incontournable. D'autres vont... C'est pour ça tantôt que je parlais, des fois, c'est la cause, des fois, c'est la conséquence. D'autres qui vont s'enliser dans un problème au départ, je sais pas moi, de problèmes relationnels, puis là, à force de jouer, de s'enliser, ben peuvent développer aussi une dépression, puis d'aller, ça peut aller jusqu'au suicide. Comme d'autres problématiques.
On comprend dans le documentaire qu'il y a des jeunes qu'on pourra difficilement atteindre. Il y en a, même avec la plateforme Youhou, à un moment donné, vous demandez dans le docu, est-ce que vous seriez porté à appeler ou à communiquer, à utiliser cette plateforme Youhou dans la salle? Évidemment, c'est presque des parfaits là, dans les codes privés. Là. Mais tu sais, autour de la table de pique-nique, à un moment donné, il y en a des jeunes, on leur dit, est-ce que vous appelleriez telle aide? Puis non. C'est là où... Puis vous travaillez chez telle aide, Guylaine.
Tel jeune, peut-être
ça répond plus là, aux jeunes aujourd'hui. Je pense que le téléphone,
mais le texto répond beaucoup plus parce qu'on a des exemples et les jeunes le disent aussi. Puis merci d'être là parce que des jeunes, des fois, qu'on a la chance d'avoir, après qu'on ait intervenu, qui nous rappellent pour dire merci d'avoir agi, merci d'être là. 24 heures sur 24. Fait que donc, il y a des jeunes qui vont dire qu'ils ne l'utilisent pas, mais des fois qu'ils disent
mais c'est
pas,
là,
mais ils vont l'utiliser pareil. Oui, c'est là, c'est 24 heures sur 24, puis c'est autant le téléphone, le forum, puis les questions. Des fois, c'est je suis pas habile pour parler, je suis capable d'écrire. Fait qu'ils peuvent poser des questions, ils vont avoir une réponse rapide. Puis il y a même une détection par rapport si les jeunes sont plus suicidaires, ben il va avoir une intervention qui va se faire rapide.
Donc, le problème, c'est quand on se rend à l'hôpital, ça peut prendre des mois avant de rencontrer quelqu'un.
Et peut-être rencontrer personne, comme Thomas.
Mais c'est pour ça que ça va être important de travailler ensemble. On n'a pas le choix de faire équipe, puis on doit tous être concernés. Du citoyen à l'intervenant, aux parents, tout le monde doit être préoccupé par...
Guylaine, Geneviève, vous restez avec moi. Jean-Philippe, merci. Ça nous permet...
Isabelle.
Merci d'avoir fait ce documentaire-là qui est fabuleux. J'aurais vraiment aimé le produire.
on fera la suite ensemble, Isabelle.
C'est vraiment très touchant. Et je le conseille à tout le monde, les parents.
Avec les enfants.
Avec les jeunes, idéalement, sinon parlez-en après. Si vous n'avez pas d'enfants, on a tous des jeunes autour de nous. C'est bon juste de conscientiser. Là, vous dites, c'est un travail d'équipe. Ce soir, en équipe, à 21h, on va regarder ton docu. Merci
beaucoup. Et ce sera également sur la page Facebook d'ici Radio-Canada Télé. Donc, si jamais il y a des gens qui n'ont pas de télé, il n'y a pas d'excuse pour le manquer ce soir.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Dion. Merci. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Je vais prendre vos commentaires au 514-790-9850. On se demande ce matin pourquoi nos jeunes au Québec sont à ce point accros aux jeux vidéo, au point où ils veulent s'enlever la vie, au point où ils sont plus capables de revenir à la réalité. Ils se réfugient bien sûr dans ces jeux-là. Il y a des jeunes, mais vous savez qu'il y a des jeunes adultes aussi. D'ailleurs, je pense que Guylaine Sarrazin, votre programme est aussi ouvert aux jeunes adultes au Québec.
Oui, on offre les services pour les jeunes adultes. Au même titre que le service pour les adolescents, c'est-à-dire qu'on voit les jeunes adultes accompagnés de leur entourage, leurs parents, s'ils vivent avec leurs parents ou n'importe quelle personne significative.
Les gens qui voudraient vous contacter, ils font comment?
À ce moment-là, ils nous contactent via notre accueil centralisé. Je peux donner le numéro?
Oui, certainement.
C'est le 450-443-4413. Naturellement, c'est pour le programme est offert en Montérégie. Je sais qu'ailleurs, aussi au Québec, je pourrais pas vous dire exactement tous les centres de réadaptation, quels centres offrent, mais je sais qu'ils peuvent aussi appeler peut-être à ce moment-là à leur centre de réadaptation de leur
région.
Parce
que souvent, c'est les ressources, on connaît pas les ressources. On a Catherine qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
Oui, on vous écoute.
Ben moi, le fait que mon fils a subi l'intimidation de la 4e à la 6e année, plus beaucoup pour sociabilité, justement, qui avait de la misère à dire ce qu'il pensait et ce qui allait. Aujourd'hui, il est rendu à 17 ans, puis plus ça va, plus il joue à ses jeux vidéo, plus ça fait peur, mais plus tu y parles, plus il dit que c'est parce que on l'a tellement surprotégé, fait qu'il met ça un peu sur notre dos, que c'est plus facile pour lui de sociabiliser dans le jeu que de sociabiliser dans la société. Fait que, à quelque part, tu veux bien faire pour ton enfant, tu veux essayer que, tu veux pas qu'il vive du mal autour de lui, mais tu peux pas le retenir autant qu'il faut. Puis il est perdu aujourd'hui, là. Je le sens perdu, là. Il a lâché. Il a commencé le cégep. Il a lâché le cégep dernièrement parce qu'il sait plus qu'est-ce qu'il veut faire. C'est pas qu'est-ce qu'il veut s'en aller. Mais il se revire vers les jeux vidéo qu'on a remarqué qu'il jouait énormément.
Ah ouais.
Fait qu'à ce moment-là, je fais quoi? J'ai des branches. Quand on lui explique, ben, il est pas sûr. Il est, tu sais. Fait qu'il, on est comme dans un impasse, nous, à la maison.
De puis, dire, puis, ben, là, s'il est au cégep, ça veut dire qu'il y a 17 au moins, non?
Oui, 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 il y a eu 17. Il va avoir 18 ans au mois de février, là. Fait qu'on est comme, puis plus ça va, tu sais, il jouait moins, parce que moi, mon conjoint, il joue aussi. Il joue au sport et tout ça. Fait qu'ils ont joué souvent et tout le temps ensemble. Mais il a découvert les jeux qui sont plus des jeux de guerre, comme Halo et ainsi de suite. Fait qu'en découvrant ces jeux-là, ben, il jase beaucoup plus en ligne. Mais il jase beaucoup plus en ligne qu'il jase avec nous à la maison.
Ouais.
Puis plus ça va, plus on voit son état. Puis même hier, c'est drôle parce que votre sujet m'interpelle. Parce que hier, au souper, j'ai demandé, je suis prête de voir quelqu'un. Est-ce que tu nous parles pas? Mais il met toujours ça sur le dos, qu'on l'a toujours surprotégé. Fait que c'est un peu de notre faute s'il n'est pas capable de sociabiliser aujourd'hui. Ou s'il y a de la difficulté, il est capable, mais avec difficulté.
Wow. Geneviève, as-tu envie de répondre à Catherine là-dessus? Ben, c'est tellement une situation délicate parce qu'en plus, le jeune, il est de moins en moins jeune, 17, bientôt 18. Tu vas vite te faire dire comme parent, garde. Puis si c'est pas lui qui le dit à 18 ans, c'est le système qui va vous rappeler, Catherine, que là, il est majeur, votre jeune. Fait que, Geneviève, qu'est-ce qu'on peut dire à Catherine?
C'est vraiment pas évident, mais la chose, l'accroche que je vois, c'est de dire, OK, ben dans ces jeux-là, il y a des sensations fortes. Ça, c'est certain que c'est attirant puis ça garde accroché. Mais il y a aussi plein d'autres habiletés qu'il va développer dans le jeu. Exemple, si c'est des jeux en équipe où est-ce qu'il doit faire des assauts fictifs sur des cibles, ben il est obligé de développer, par exemple, comment travailler en équipe, comment planifier des tâches puis les exécuter en équipe. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut valoriser. Et là, ça serait de trouver des pendants dans la vie réelle où est-ce qu'il peut expérimenter ça puis découvrir qu'il les a vraiment, ces habiletés-là, que c'est pas juste quelque chose qui existe dans le jeu, qu'il est la même personne à l'extérieur du jeu. Puis de voir aussi, essayer d'avoir le pouls sur le genre de conversation qu'il y a sur le jeu qui n'ont pas de lien avec ça, parce que les propos qui tiennent sur bon le fait que vous l'avez surprotégé, tout ça, moi, je me demande d'où ça sort.
Ouais.
Est-ce que c'est dans son réseau de sociabilité dans le jeu que c'est quelque chose qui est commun? Puis est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à démonter là-dessus si ce n'est pas votre perception ou si... Donc, il y a un âge, peut-être, vous pouvez avoir ce genre de communication-là, mais là, je vais passer la balle sur ça,
Guylaine?
Bien, si je fais suite à ce que tu dis, dans les faits, Geneviève, c'est sûr que le fait de dire, bien, on m'a surprotégée, bien, peut-être qu'il y a un fond de colère, il y a quelque chose, en tout cas, que peut-être qu'on doit aller explorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que ça l'a emmené? Puis oui, si, bon, il dit que c'est à cause de ça qu'il joue aux jeux vidéo, bien, je pense que c'est une bonne entrée en matière pour parler de la situation, puis de voir avec lui aussi qu'est-ce qu'il souhaite, puis est-ce que lui voit ça comme un problème, jusqu'à quel point il voit ça comme un problème, qu'est-ce que lui souhaite aussi faire avec le fait de réinstaller le dialogue va être important. Puis c'est pour ça que ça se fait pas nécessairement seul avec votre fils, mais avec tout.
Et j'allais rajouter, Catherine, que moi, je me rends compte avec mes propres enfants. T'sais, des fois, surtout à l'adolescence, j'avais une discussion hier soir avec ma fille là-dessus, 15 ans, puis... Des fois, c'est pas à nous qu'ils veulent parler. C'est juste pas à nous. L'important, c'est de s'assurer qu'il y ait quelqu'un à qui ils parlent et non pas une boîte noire devant eux, là, qui est un ordinateur et un monde virtuel. Mais si au moins ils ont quelqu'un d'autre, une personne de référence, c'est juste des fois de pas le prendre personnel quand ils nous disent, gars, je veux pas te parler à toi. Mais d'essayer de s'assurer de voir à qui d'autre ils peuvent parler. Puis des fois, ça peut être un coach, ça peut être un prof à l'école, ça peut être le parent de quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça répond un peu à vos questions, mais Catherine.
Oui, certainement. Je sais que il y a le même ami depuis X temps, là. Ça fait des années qu'il y a les mêmes amis. Ils changent pas vraiment. Fait que j'imagine que ça se parle un petit peu entre eux. Mais je suis pas sûre qu'ils vont profondément dans les conversations. Mais je lui ai offert quand il y a eu l'intimidation. Écoute, c'est allé loin, on a eu des crises d'angoisse, on n'a pas dormi de la nuit et passé avec une chaise berçante devant sa chambre. C'est allé très loin. Puis à ce moment-là, on avait consulté la personne en question, nous avait dit que bon, c'était probablement juste lié à ça, fait qu'on avait arrêté, mais souvent on lui demande. C'est quelque chose que je lui demande régulièrement, mais il faudrait que je trouve une façon qu'il l'ait directement, tu sais, l'application, ça serait génial, là, qu'il l'ait directement sur son téléphone, puis qu'il ait juste à texter.
Ça s'appelle Youhoo. Ça va être entre autres celle de lancée par Alexandre Taillefer. Ça va être possible. C'est une espèce de projet pilote à partir de septembre au Collège du Rocher, mais probablement que ça va être disponible ensuite pour tout le monde. Puis sinon, en attendant, il y a quand même tel jeune où il y a des ressources pour vous.
Il y a la ligne parent.
Il y a la ligne parent, voilà, où il y a des ressources. Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir appelé. On va s'arrêter ici. Le temps passe tellement vite. Nos lignes sont pleines. On vous parle tout de suite après. Marie nous appelle. Bonjour, Marie. Votre fils, je pense, c'est ce qu'on appelle un gamer, justement.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais premièrement saluer particulièrement Guylaine, que je connais, qui a aidé mon fils. À l'époque où c'était un projet pilote, ça fait maintenant près de 5 ans de ça. Et mon fils, Gabriel, pour ne pas le nommer, ça a commencé, lui, par une dépression. Le problème de santé mentale est venu avant. Mais c'est un petit gars qui avait toujours été très introverti, très il avait de la difficulté à prendre sa place.
Ouais.
Du fait qu'il avait un frère jumeau qui avait un très fort tempérament. Et on a fait tout ce qu'on a pu parce que je voyais clair quand même.
Ouais. Et donc, il est allé en thérapie quelques temps, puis ça l'a aidé.
Là où est Guylaine, à l'époque où c'était un projet pilote, ça lui a fait beaucoup de bien, ça lui a ouvert les yeux sur un paquet de choses. Et comme ça se passe avec la famille aussi, la famille immédiate, là, ça a permis de dénouer des situations, une problématique, exemple, avec son père.
Voilà. Merci beaucoup, Marie. On a Jean-Marc au bout du fil. Bonjour, Jean-Marc.
Bonjour, ça va bien?
Oui, allez-y.
Moi, je suis un gamer. Je vais jouer 10, 15, 20 heures par semaine, surtout l'hiver. Je suis l'industrie du vidéo depuis que les années 80, depuis que je suis jeune. J'ai quasiment toutes les consoles. Juste pour dire que ça a beaucoup changé depuis les dernières années. Avant, on jouait à deux avec mon ami sur le divan. Mmh. On jouait Nintendo 64 à quatre. On avait du fun. C'était un petit party. Tout le monde se rencontrait. À cette heure, l'industrie du jeu vidéo, il nous isole. Chacun de notre côté. Faut que t'achètes ta console, ton jeu. Faut que t'achètes des bonhommes dans le jeu. Faut que t'achètes des skins dans le jeu. Tout pour nous isoler. T'as l'impression d'avoir des amis. T'as l'impression d'en compter du monde. Mais ces personnes-là, t'y verras jamais de ta vie. Puis après, quand tu te rends compte que tes amis sont juste virtuels, sont juste comme pas là physiquement dans ta vie, c'est là que je pense que ça déclenche une dépression, ça déclenche des effets secondaires. C'est dangereux. L'industrie, qu'est-ce qu'ils voient sur le monde? C'est des signes de pièce. Il n'y en a rien à foutre que les jeunes soient isolés puis qu'ils soient dépressifs chacun chez eux.
C'est épouvantable. Vous auriez pu sombrer plus profond, Jean-Marc?
Ben moi, les jeux vidéo m'ont aidé parce que j'aimais les jeux de combat. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du Shaolin Kempo, du taekwondo, du karaté. J'ai touché un peu à tout grâce aux jeux vidéo parce que mes personnages préférés, c'était des batailleurs de jeux vidéo. Puis j'aimais ça, puis je me suis recyclé là-dedans. Je joue encore quand même. Mais
vous étiez conscient du risque, j'ai l'impression, en vous écoutant. Là.
Mais c'était pas pareil. Comme que je dis, c'était pas pareil dans mon temps. On jouait toute la gang chez nous, c'était le fun. Voilà. On avait des petites compétitions à Star.
C'est
triste un peu. Même moi, que je game avec mes amis, que je vois jamais. Il y a des amis que je vois jamais, je les ai vus au secondaire, puis je vois juste online, je les entends juste leur voix, là, je les vois jamais. C'est triste, là, quand même.
Quel âge vous avez, Jean-Marc?
J'ai 32 ans.
OK. Parce que c'est peut-être que des jeunes comme vous, là, vous êtes encore jeune, pour y aller dans des écoles, parler à des jeunes, en tout cas, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, je sais pas, je dis ça comme ça, mais aviez-vous pensé à ça? Parce que votre exemple pourrait être un bon exemple pour ceux qui sont des vrais gamers... difficile.
Très bonne idée. Je vois pas pourquoi que ça se ferait pas.
Laissez-nous vos coordonnées. On va prendre vos coordonnées. Merci. Restez en ligne, Jean-Marc. Merci. Geneviève?
Oui, ben en fait, je pense qu'il y a quelque chose de super pertinent dans cette intervention-là, de dire que dans les codes du jeu, dans la façon dont les jeux sont construits, ils sont construits pour favoriser l'achat en ligne dans le jeu. Donc, on parlait des skins. Ça, c'est quand on habille un personnage avec des visuels différents. Ça permet d'augmenter son statut dans le jeu parce que les autres joueurs voient qu'on a ça et ils savent qu'on est quelqu'un qui est sérieux. C'est très sérieux. Au niveau des gamers, on va parler du, entre guillemets, le treadmill. Donc, c'est le tapis roulant sur lequel on s'engage. Et on court là-dessus à l'infini. Il n'y a jamais de fin à ça. C'est juste d'aller chercher toujours la nouvelle petite item. Et il n'y a pas de fin à ça. C'est construit pour nous garder sur le tapis roulant. Donc, c'est vraiment important de souligner. Puis, les jeunes ne sont pas toujours au courant de ça.
Non, c'est clair. Merci beaucoup, Geneviève Lajeunesse, animatrice du podcast Chien de garde, qui est directrice des opérations à Crypto-Québec également. Guylaine Sarrazin, merci beaucoup, travailleuse sociale au Centre de réadaptation en dépendance du CI3S de la Montérégie-Ouest. 450-443-4413. Ça se peut que vous receviez une coupe d'appel, ouais. Guylaine. Merci pour vos bons conseils. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.